le tumulus. En latin, le tumulus, c'est l'éminence, l'élévation, le tertre. C'est le nom qu'on a donné à des promontoires construits peu de temps après l'époque des menhirs et dolmens. Ces pyramides de pierre, dont certaines mesurent plus de 100 mètres de long sur 60 mètres de large, tumulus Saint-Michel près de Carnac dans le Morbihan, celui de Plouézoc près de Morlaix fait 70 mètres, rassemblent des chambres funéraires disposées de part et d'autre de couloirs. Puisque nous venons de parler de Carnac, il faut rappeler que c'est là que se trouve la plus exceptionnelle concentration de mégalithes, grosses pierres, au monde. Trois sites s'offrent à vous. Celui de Kerlescan, qui rassemble 240 menhirs, celui de Kermario, 982, et celui du Ménec, 1099. N'essayez pas d'en dresser un supplémentaire, histoire de marquer votre passage. Ils sont régulièrement recomptés, ça se verrait.
On trouve aussi des dolmens, ou tables de pierre, qui recouvrent une ou plusieurs chambres funéraires, souvent superposées au fil des époques. Enfin, que ce soit dans les champs de menhirs ou isolément en pleine campagne, on peut observer aujourd'hui encore des cromlechs, en breton, pierre en rond, ou leur reste. Ces cromlechs sont orientés précisément en fonction des équinoxes et solstices. Il est probable, selon les dernières interprétations, qu'ils servaient de calendrier ou d'aide-mémoire afin de reconnaître le temps des labours, celui des ensemencements, celui des fêtes religieuses aussi, et peut-être des sacrifices pour relancer la machine céleste. 3700 avant notre ère, des habitants autochtones de Chassé en Saône-et-Loire, nommés depuis les Chasséens, se disent depuis déjà plusieurs siècles que, décidément, les Danubiens, individus de petite taille, au crâne et au visage allongé, au nez épaté, et leur beau Danube bleu, deviennent à la fois monotones et envahissants. Ils décident de les repousser au-delà de la ligne Dunkerque-Belfort. Et puis voici que ces chasséens s'en vont dans toutes les directions avec leur fort jolie poterie, leur outillage perfectionné, leur technique de culture, leur silo à grains, leur bœuf. Ils fondent des villages, creusent des puits et s'activent pour que la démographie sorte de son anémie millénaire. Ainsi, 1000 ans plus tard, en moins 2700, la population est passée à 1 million d'habitants sur le territoire français. De plus, le commerce est florissant. Les haches fabriquées par milliers dans les PME de Plussulien dans les Côtes d'Armor sont exportées dans la communauté européenne de l'époque. Angleterre, Allemagne, Italie. Belles images, hein, que celles des livres de l'école primaire au siècle dernier. On y voyait des hommes préhistoriques habitant des cités lacustres afin de se protéger des bêtes féroces après avoir cultivé leurs champs dans la campagne environnante. Cette vision datait du XIXe siècle, lorsque le niveau du lac de Zurich ayant baissé, on avait découvert un village isolé du rivage comme une petite île. Mais à partir de 1940, on commence à comprendre que les cités hâtivement baptisées lacustres ne sont que le produit d'une imagination simplificatrice. De cités lacustres, point. Les villages ont été bâtis sur la terre ferme bien avant la montée des eaux du lac. Ainsi, celui de Charavine, dans l'Isère, près du lac de Paladru, qui a livré quantité de renseignements sur la vie des hommes du néolithique entre moins 2400 et moins 2300, on y trouve des récipients, des louches, des cuillères, des peignes, des bobines de fil, des litières pour le bétail, des traces de pas d'hommes et d'animaux. Des cuillères ? Oui, la restauration rapide n'avait pas encore fait faire aux affamés ce progrès formidable, manger avec les mains.